J'attends ce soir ma née.
Ici, nous sommes dans ma maison, en bordure de la forêt. Pourtant, de l'autre côté, il y a le village qui s'est développé. Et en fait, j'ai mis ma maison entre la forêt et le monde moderne pour protéger mon monde à moi.
Épisode numéro 6, pour ne pas disparaître.
Sarayaku est l'épicentre de la résistance. À partir d'ici, d'autres communautés viennent pour récupérer leurs valeurs.
Voyage inter-indigène. Une mémoire des hommes qui s'efface.
Anna.
Une série d'Anne Pastor. Inuits, Indiens, Pygmées, Aborigènes, ils sont près de 370 millions dans le monde. Souvent réduits à l'image de primitifs, ces peuples menacés par la mondialisation sont pourtant notre mémoire et les gardiens de savoirs ancestraux. Alors peut-être est-il temps de les écouter. Aujourd'hui, direction l'Équateur et l'Indonésie. Enfin reconnus par l'ONU en 1999, ces peuples retrouvent peu à peu leur dignité et réaffirment leur identité culturelle. En Indonésie, au large de Sumatra, après des années de dictature, les Mentawai redécouvrent une culture perdue, mais la modernité se rapproche à grands pas de leur forêt. En Équateur, au cœur de l'Amazonie, c'est contre les compagnies pétrolières que les Sarayaku ont dû se battre. Après des années de lutte, la fête de la lance réunit des milliers de personnes. Et le son des tambours résonne comme un symbole de résistance. Deux peuples, deux continents et un même voyage au cœur de la reconquête d'une identité. Vous êtes inter-indigène sur France Inter. En Amazonie, chez les Sarayaku.
Como soy de aquí, siento muy orgulloso y
soyez les bienvenus.
Que estén bienvenidos ustedes también para que vean
la tradición. La tradition de Sarayaku.
Je me souviens d'avoir entendu Sarayaku avant de voir Sarayaku. La première chose qui me revient en mémoire, c'est le battement de centaines de tambours. Pam, 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 un battement qui allait durer des jours et des nuits. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Après, je me souviens aussi d'avoir senti Sarayaku avant de le voir. L'odeur de vénerie du gibier qui avait été chassé par les hommes pendant le début de la fête de la lance. Et qui était pendu dans les malocas, dans les huttes communautaires, et qu'on sentait. Et puis après, au détour d'un virage du rio Bobo-Dinsa, l'arrivée sur Sarayaku, les cases, les toits de palme, les gens sur le bord du fleuve, à 8-9 heures de pirogue, de pouillot, en descendant le rio Bobo-Dinsa, qui est cette rivière tempétueuse qui descend des Andes, et ce caractère fort est à l'image du caractère des Kichwa Sarayaku.
Jusqu'à aujourd'hui, ces 1200 Indiens, descendants des Incas, vivent entièrement de la forêt, avec leurs croyances et leurs traditions. Mais c'est un patrimoine bien fragile. Depuis plus de 3 décennies, les Sarayaku s'opposent aux compagnies pétrolières et résistent aux tentatives de destruction de leur environnement. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, ils réaffirment haut et fort leur identité à travers la fête de la lance que tout le village organise pendant 2 ans. La fête approche. Depuis 15 jours, les hommes sont partis dans la jungle et les femmes terminent la décoration de centaines de jars et préparent la chicha, la pierre de manioc.
On est parti vers 4-5 heures du matin, on a pris la pirogue pendant une demi-heure et puis on a marché pendant une demi-heure en forêt. Et on a porté 10 fois 50 kilos sur le dos. Et on a justement plus d'hommes dans le village, puisque tous les hommes sont à la chasse. Et donc on a rapporté ce manioc jusqu'à la rivière. On est arrivé ici vers 10h du matin. Et donc vendredi de 10h du matin jusqu'à dimanche 12 heures. Fâché sur son fils, elle n'était pas très contente de ce qu'il fait. Et donc, on a fait de la chicha pendant 3 jours sans arrêter, quoi. Samedi, nous, on a fait 4 énormes jars. Enfin, c'est impressionnant, quoi.
Masticé.
Et puis,
comme pour ceux qui ne connaissent pas la fabrication de la chicha.
Oui, bon, c'est toujours un peu délicat, je dirais. Le yucca est cuisiné comme une pomme de terre. Une fois qu'il est cuit, on l'écrase, on en fait une purée et on en mastique une partie, 40 ou 50 kilos. Et alors là, on y va tous à cœur joie jusqu'à ce que cette purée devienne liquide. Et alors, elle est mise dans la jarre et elle fermente pendant une semaine.
C'est préparé de tout, ça s'appelle jugo. Pour la pinta. C'est la préparation.
À Sarayaku, le travail de la femme et de l'homme sont très séparés, mais ils sont très complémentaires. C'est pas divisé, ils s'accordent et ils ont besoin chacun l'un de l'autre. Il y a un rôle incroyable des hommes pour apporter toutes ces plumes, toute cette nourriture, etc. Mais la base de la fête, les céramiques, la chicha, c'est la femme.
Mauricio, on est sur la pirogue, au pied de du village de Sarayaku. On va où, là ?
On va à la maison où arrivent les hommes qui viennent de la forêt, qui viennent deux semaines de la chasse. On va les recevoir. Les femmes, ils vont ramener la chicha. Et c'est comme ça qu'on les reçoit.
C'est amusant parce qu'en fait, les enfants ont envie de monter. Tout le monde a envie d'aller retrouver les hommes avec les petits tambours.
Le tambour pour l'homme, c'est un instrument qu'ils vont utiliser pendant toute la fête. C'est la force et aussi la fierté d'être de Sarayaku.
Il y a des années d'ici, en fait, les hommes de Sarayaku et d'autres peuples de Boronasa partaient au Pérou chercher du sel. Donc pour aller jusque là-bas, ils partaient 2-3 mois. Et pendant 2-3 mois, les femmes restaient ici. Et alors, comme elles étaient seules avec les enfants, elles avaient un autre rythme de vie, etc., elles commençaient à faire la céramique. Et comme les hommes n'étaient pas là, elles continuaient et elles faisaient de la chicha. Au retour des hommes, ils apportaient du sel, des machettes, des vêtements, etc. Et les femmes, elles, recevaient leur mari avec la chicha. Et puis pendant 2-3 jours, on buvait ensemble, on mangeait ce que les hommes avaient apporté, et c'était la fête, c'était le trouvail de chacun, etc. Donc au fur et à mesure des années, etc., s'est implantée une date, au mois de février maintenant, c'est devenu la fête de Sarayaku. Et c'est une reproduction de cette manière de recevoir les gens de l'extérieur. Et en fait, la fête de Sarayaku, c'est la beauté, c'est l'art, c'est la force de Sarayaku, c'est la femme de Sarayaku, c'est l'homme de Sarayaku, c'est leur contact avec la terre, c'est le monde spirituel, c'est tout ce qu'est Sarayaku.
Bonjour.
Voilà.
Heriberto.
Si, c'est le prioste de une de las fiestas de Sarayaku.
Je suis le chef de la fête de la lance de Sarayaku.
Hemos estado 12 días en la selva.
Nous venons de passer 12 jours dans la forêt et nous sommes arrivés il y a juste 2 heures.
Ahora, mis ayudantes están preparando, afinando
sus tambores. Sont en train d'affiner leurs tambours et préparent leurs plumes pour la cérémonie de présentation demain. Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours assisté à cette fête, elle n'a pas changé. C'est pour ça que nous tenons tant à préserver la forêt, pour pouvoir réaliser ce genre d'activité. C'est une partie de notre vie. Beaucoup d'enfants y sont allés et ont beaucoup appris d'elle. Et comment y survivre ? Certains de mon groupe se sont perdus et c'est être en contact avec la forêt. S'il
n'y
a plus de forêt, il n'y a plus de fête, il n'y a plus de chasse. C'est un apprentissage que les enfants n'auront jamais à l'école ou à l'université. Ils apprennent comment vivre en accord avec la forêt, comment y survivre.
Qu'est-ce que vous avez ramassé cette année?
Nous avons du poisson, des oiseaux, des singes et des sangliers. Nous avons apporté tous les animaux à plumes, la viande pour la manger, les plumes pour nos parures et les os pour nos colis. Tu dois donner la preuve de ce que tu as chassé. Les peaux sont les preuves.
Vous êtes en terre indigène sur France Inter.
Autrefois, quand il fallait se battre pour survivre, nos ancêtres signifiaient avec la lance que Sarayaku était mobilisé et prêt à se battre. Aujourd'hui, on va faire le décompte des animaux chassés. Et tous, oiseaux, poissons et autres animaux, vont être inscrits dans un registre que nous tenons nous-mêmes afin de conserver l'équilibre de la faune. Il va y avoir de la musique, des tambours et des pirouanos, des danses, parce que la danse est une preuve de maintien des traditions de la résistance culturelle de Sarayaku. Comme peuple indigène, nous ne parlons pas de révolte, mais d'un droit qui nous appartient comme peuple originel de cette terre.
En Amazonie, chez les Sarayaku.
Je m'appelle Patrick Barre, je suis photojournaliste et écrivain. On arrivait de Pouillot, en pirogue, avec d'autres personnes qui se rendaient à la fête de la lance. La première chose qui me revient en mémoire, c'est le battement de centaines de tambours, pam, 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 un battement qui allait durer des jours et des nuits. Je crois que le battement incessant des tambours n'est pas près de me quitter. C'est si vrai que la nuit en dormant, j'étais incapable de dire si les tambours avaient cessé de battre ou pas pendant que je dormais. Parce que ce tambour qui bat, c'est centaines de tambours qui battent et qui sont faits des peaux des animaux chassés dans la forêt. C'est la force du peuple de Sarayaku qui s'exprime. La fête de la lance est d'abord une fête de guerriers, puisqu'à l'origine, les Kichwa de Sarayaku ont été des guerriers. C'est une fête de chasseurs, ce qu'ils sont toujours. Et c'est une fête de résistance. Elle symbolise la résistance du peuple Sarayaku, aujourd'hui face aux appétits des pétroliers, évidemment. Mais elle a toujours symbolisé la résistance de Sarayaku contre d'autres ennemis, quand il s'est agi de faire reconnaître l'intégrité du territoire au début des années 90, par exemple. Mais c'est pas seulement une fête de résistance. C'est aussi une fête de partage, une fête pour remercier les puissances de la forêt, les esprits de la forêt, pour leur générosité, pour ce qu'elle donne au peuple de Sarayaku. C'est également le moment d'un passage, d'une transition. Pour tous les jeunes garçons qui ont 10, 11, 12 ans et qui vont partir avec les hommes dans la forêt, avec les chasseurs, pendant 15 jours pour prendre ce gibier, alors c'est le moment de la transition à l'âge adulte. Pour moi, c'est plus quelque chose qui symbolise ce qu'est la transmission des savoirs à Sarayaku, avec beaucoup de notions différentes, le sumakaosa et le bien vivre, l'art de vivre, la terre sans mal, ou encore une fois, on va affirmer, réaffirmer la prédominance de l'être sur l'avoir. Et c'est pour ça qu'au fond, cette fête de la lance, elle a quelque chose qui relève d'un patrimoine immatériel, d'intérêt planétaire. Et on est aux antipodes de ce qu'on pourrait appeler tradition ou pire encore folklore. Ça, c'est la mort, par contre. Ça, c'est la mort. Non, là, on est dans la vie.
On est arrivé sur la plage où les hommes ils sont tous déguisés d'une manière traditionnelle avec le plume, avec la peau des animaux qu'ils ont chassés. Et maintenant, ce sont les femmes qui sont en train de leur donner des chicha pour leur donner de l'énergie, et c'est le début maintenant de la fête. Et ça va continuer 3 jours de fête sans arrêt. Ils arrivent avec la pirogue, accueillis par la musique de la flûte et des tambours. La flûte symbolise le son de la forêt, des animaux, les oiseaux. Et leurs visages sont recouverts de peintures de huito, une manière aussi de respect face aux esprits de la forêt.
Voilà, et chaque femme va vers son mari lui proposer la chicha.
Ça va bien, vous aimez? Bien, je suis contente.
Et les femmes, elles commencent à danser avec le chicha.
Il faut se sentir bien pendant ces trois jours. C'est cette harmonie qui nous donne la force de continuer en étant plus fort.
Sont 450 ans qu'existe Sarayaku.
Cela fait 450 ans que Sarayaku existe et nous maintenons l'héritage. C'est comme ça.
C'est l'occasion de montrer toute la richesse culturelle à travers ces danses. Vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu ces danses.
Oui, la danse exprime fondamentalement la joie de chacun, celle de la fête. C'est ce qui donne de la couleur à la fête, parce que sans danse, il n'y a pas de fête. Les femmes soignent particulièrement leur chevelure, parce que c'est ce qui les fait briller quand elles virevoltent. Il y a des chants aussi. Et ces hommes qui jouent du pirjuano et les tambours manifestent la joie de la fête.
Et aujourd'hui, c'est le deuxième jour, c'est le jour des fleurs, de Sisa Kamari. Chaque famille vient avec les plus belles fleurs de son jardin. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de vie. Les hommes qui arrivent avec les feuilles, les femmes avec les fleurs. Les hommes, ils dansent la danse de la lance. Et les femmes, ils dansent en bougeant leur tête avec les cheveux très longs.
C'est très beau cette image, avec toutes les femmes qui sont assises. Devant elles, il y a ces jarres de fleurs. Et il y a vraiment les hommes qui s'agenouillent devant elles, qui font une prière, alors que quelques minutes auparavant, ils étaient là avec leur lance. Une danse qui faisait penser à des danses de guerriers, presque.
Ce qui est aussi très important à voir, c'est qu'en fait, ce n'est pas les hommes qui invitent les femmes. Vous avez remarqué, ce sont les femmes qui attirent les hommes et qui les font danser. Donc il y a une force incroyable chez les femmes. Le fait d'attraper l'homme, de danser avec lui, et puis que quand elle en a fini, hop, elle l'envoie, il reprend un autre, etc. Et en plus, c'est très joli à voir.
Maintenant, ce sont les différentes dirigeants des communautés du peuple de Sarayaku. C'est un peu le remerciement d'être invités, mais aussi dire qu'ils sont présents, qu'ils sont très fiers d'avoir une histoire de résistance, une histoire contre les compagnies pétrolières.
Mi nombre es Clider Walinga, soy de la comunidad San Isla y vivo ahí. Y mi edad es 20 años.
Je viens de San Isla. Sarayaku est le premier exemple de résistance aux pétroliers.
Qui est le corazón de la lucha aquí en Sarayaku, gente bastante unida, que con una sola fuerza podemos lograr cualquier tipo y luchar con cualquier tipo que venga a la pétrolera.
Ici se trouve le poumon de l'Équateur, que nous devons préserver pour tous.
Aquí la, más que todo en la Amazonía.
Pour eux, la lutte, c'est la même chose que la fête. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir, parce que maintenant, c'est Sarayaku qui est la référence internationale de la lutte de résistance.
Ça, c'est une des autres choses qui m'a vraiment beaucoup marqué quand j'ai rencontré le peuple Kichwa de Sarayaku, c'est son ouverture au monde. On est en plein milieu de l'Amazonie, sans doute à pas plus de quelques dizaines de kilomètres de peuples jamais contactés. Et en même temps, le peuple Quechua Sarayaku est un peuple ouvert sur le monde. Et puis les Sarayaku ont voyagé dans le monde, ont vu le reste du monde. Et parmi les Sarayaku, il y a un réalisateur vidéo, un professeur de philosophie, un ancien président de la Confédération des Nations Autochtones d'Équateur. Et à la fois, c'est une façon d'être au monde, de parler au monde, de porter des valeurs universelles, humanistes, sans rien renier de ce qu'on est et de qui on est. Et c'est ça qui est extraordinaire.
Comment creen que le monde se formó? Comment creen que l'Amazonie se desarrolló? Comment creen que l'homme empezó?
Comment croyez-vous que le monde s'est formé? Que l'homme est arrivé dans l'Amazonie?
Ce dialogue avec le monde, quand il est fait par exemple au collège à Sarayaku, ça fait qu'avec un prof de philo, qui est un Quichua de Sarayaku, ils vont aller découvrir des philosophes grecs et ils vont essayer de faire le parallèle avec ce que porte leur philosophie comme valeur et ils vont essayer de reconnaître dans la philosophie de l'autre ce qui est également dans leur philosophie, et ça va créer des territoires de partage. Et ça, c'est quelque chose d'absolument magnifique, parce qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de fermé sur soi-même, dans une espèce de repli identitaire, pas du tout, c'est même exactement le contraire. C'est dire, ok, on a beaucoup à apprendre, c'est très intéressant, mais nous, on tient beaucoup à rester qui on est, parce que si on reste qui on est porteur d'un message où on a aussi beaucoup à vous donner.
Là, c'est le dernier rassemblement et puis alors après les hommes partiront dans le fleuve. Mais tout ce qui a été travaillé pendant tous ces jours-ci, qui est remis à la terre et à la nature, et toute la chicha va être versée sur les hommes et les femmes et les peaux remises dans le fleuve.
Voilà, c'est fini.
Sarayaku
est l'épicentre de la résistance. À partir d'ici, d'autres communautés viennent pour récupérer leurs valeurs, leur artisanat, leurs coutumes, leur culture, leurs connaissances. Beaucoup viennent observer la fête de Sarayaku.
Quand tout est fini, c'est le renouveau. On repart pour un cycle. Alors toutes les poteries qu'il a fallu des mois, un an, deux ans pour confectionner, puis il a fallu les peindre, il a fallu les décorer, elles sont, à la fin de la fête de la lance, lancées contre le toit de la Maloca, détruites, explosées. Et on espère que l'une d'entre elles va rester coincée dans les poutres, dans la charpente de la Maloca. Ça veut dire que la fête aura lieu de nouveau. Donc si la fête continue, Sarayaku continue à vivre.
Dans quelques mois, en février, aura donc lieu à nouveau la fête de la lance. Ils viendront à nouveau de toute l'Amérique latine s'inspirer de la résistance du peuple Sarayaku, qui est devenu un modèle. Loin de la fête et de l'Amazonie, à 20 000 km de là, en Indonésie, c'est au quotidien et sans faire de bruit que les Mentawa y résistent. Après des années de dictature, de sédentarisation forcée et d'évangélisation, ils retrouvent peu à peu leurs racines, même s'ils doivent aussi affronter de nouveaux dangers.
Ici, nous sommes dans ma maison. La maison de mon clan que j'ai fait, en bordure de la forêt. Pourtant, de l'autre côté, il y a le village qui s'est développé. Il y a même une mosquée. Il y a aussi des chemins en ciment. Et en fait, j'ai mis ma maison entre la forêt et le monde moderne, quelque part, pour protéger mon monde à moi.
Vous êtes un terre indigène sur France Inter.
Presque tous les jours, je vais dans la forêt. Si je viens pas ici souvent, il y a quelque chose qui disparaît.
To slow down the time.
Kalulut, kukabakay lagget, maliuriw kukabakay le, iba, mabatag, maigile batak kay ne.
And down on my mind, I'm building a still.
Et ici, jamais les hommes n'ont abîmé quoi que ce soit.
To slow down
the time. Masyap le iya kay kalele.
I'm up in the woods, I'm down on my mind, I'm building a still to slow down time. I'm up in the woods, I'm down on my land, I'm building a still to slow down the time.
Siburu, mawaito pa ili ako. Lepa ako pukerei, uray.
Mon école, c'est la forêt. Mon professeur, ça a été mon père.
Baranan punutete ukupe ili, ali hamaku, ali ako zosowa.
Depuis que je suis tout petit, je vis dans la forêt. Mon père, mes frères, on vit tous de la forêt.
Anay pasi laget, pasi laget.
Presque tous les jours, je vais dans la forêt. Et moi, si je ne viens pas ici souvent, il y a quelque chose qui disparaît. Il dit, j'aime beaucoup quand on est dans un endroit calme comme ça, qu'il y a juste le bruit des insectes. C'est parfait, là, il y a juste le soleil à travers les feuilles pour chasser. Il dit, c'est comme ça que j'aime chasser.
Voyage en terre indigène sur France Inter. En Indonésie, chez les Mentawai.
Mentawai, c'est le nom du premier homme, celui qui vient de nulle part. Ma première rencontre, c'était dans les années 80, je crois, en 1985. Mais à l'époque, c'était pas évident. On était encore sous la dictature, le régime du président Suharto. Et ce régime-là ne voulait pas du tout avoir l'image d'un pays où il y ait des tribus, entre guillemets, primitives. C'est-à-dire tout ce qui était animisme et tout ça, on essayait de le cacher à l'époque. Donc c'était interdit pour les touristes de venir ici. Et je suis venu caché dans un bateau de pêche. Et arrivé ici, hop, très très vite, on est parti à l'intérieur de la jungle. C'est là encore où on trouve la Ratsa Bulungan, c'est-à-dire la culture traditionnelle. L'arat, ça veut dire à date, c'est ce qui relie l'ensemble des coutumes, la religion, la tradition. Et il y a seulement le long de cette rivière où on trouve encore cette culture bien vivante.
Les Mentawai sont 40 000 dans l'archipel indonésien. Et depuis que les missionnaires ont découvert avec horreur ce peuple arriéré, vivant nu au XXe siècle, ils ont été priés de se couvrir au plus vite. Le gouvernement indonésien les a obligés à se regrouper dans des villages modèles et à vénérer un dieu qu'ils ne connaissaient pas. Seuls, quelques milliers sont parvenus à résister et à vivre à l'écart du monde dans cette forêt humide à 5 heures de pirogue de la première ville, Morasi, Beyrouth. Un homme incarne cette résistance, Aman Laolao, il est Sikerei. C'est lui le guide, le gardien des traditions de ces hommes de la forêt. Il se souvient de ce jour, en 1954, où les hommes de la ville sont venus leur prendre leur liberté.
C'était interdit d'avoir les cheveux longs, c'était interdit de porter des colliers de perles, de porter des tatouages, de porter le kabit, le cache-sexe. Il y a même un jour, la police est montée et a brûlé les maisons des gens, toutes les maisons traditionnelles. Les gens se sauvaient dans la forêt. La police menaçait aussi de tuer les personnes si elles continuaient à vivre selon leurs traditions. À cette époque-là, il y a eu une grande réunion à Sibérout. Parce que le gouvernement de Jakarta interdisait toutes les religions animistes. Il fallait être soit chrétien, soit musulman, soit bouddhiste. Et on a été obligé de choisir. Mais ça ne correspondait à rien, tout ça. Moi, je n'ai pas supporté. Ça, c'était ma culture, tout ça, qui voulait tuer. Moi, je suis parti avec un ami chez le gouverneur, à Padang. J'ai été furieux. Et je lui ai dit, vous n'avez pas le droit de toucher à ma culture. Là-bas, c'est chez moi. Si vous continuez comme ça, ce n'est pas vous qui allez nous tuer, c'est moi qui vais vous tuer. Et on a parlé. Et puis finalement, à la fin, j'ai peut-être gagné. Parce qu'ils m'ont fait une lettre de recommandation qui venait du gouvernement central de Jakarta pour qu'on nous laisse tranquille. Quand j'ai été voir le gouverneur, la force, elle venait peut-être parce que je parlais pour la culture Mentawai. Mais ça ne suffit pas encore. Je pense vraiment que ce sont mes ancêtres, mes parents, mes grands-parents, tous ces gens-là qui, à ce moment-là, se sont réunis pour m'envoyer leur force. Après, on nous a laissés tranquilles. Et jusqu'à aujourd'hui, on est libre. J'y suis peut-être pour quelque chose, mais on est libre maintenant.
Aussi la maison de mon père. Ma maison, c'est la maison de tout mon clan. Quand il y a une fête, tous mes enfants viennent ici, on se rassemble tous ici. Ma maison, elle est comme moi, je suis vieux. Ma maison, elle est vieille, mais on est encore très fort.
C'est la canne. J'allais dire, c'est Astérix et Obélix, mais c'est le dernier village, les derniers irréductibles. Dans 20 ans, Il n'y aura plus beaucoup de maisons comme celle-ci, qui a vraiment une âme, qui a un vécu extraordinaire.
Vous êtes un grand chasseur, parce qu'il y a des milliers de crânes de singes, il y a même des buffles que vous avez accrochés en décoration.
Ici, ma vie, c'est la forêt et c'est la chasse.
Oh, l'hiver.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup de crânes de singes, d'oiseaux. Les gens, quand ils rentrent dans cette maison, qui voient tous ces crânes, ils disent « Oh là là, quel chasseur !»
Cette maison, à elle seule, finalement, elle représente toute la culture Mentawai.
Ma maison, c'est une vraie maison Mentawai. Ça n'a rien à voir avec les maisons, avec les toits de zinc qu'on nous construit tout autour maintenant. Ça, c'est une vraie maison Mentawai. Voilà, le gouvernement construit, ça leur prend de temps en temps, 1000 maisons ou 500 maisons quelque part, des toutes petites maisons, des sortes de cubes avec un toit en zinc où il fait très très chaud. Il y a des budgets à dépenser, et bien évidemment, les dirigeants sont en relation avec des entrepreneurs qui leur reversent quelque chose. Tout le monde est content, sur le dos des populations locales. Ce qui se dit aussi, pour la route surtout, c'est que ça facilite l'accès aux dispensaires, aux soins par exemple, l'accès des missionnaires. C'est-à-dire quelque part, on ouvre la voie à la modernité.
Est-ce qu'il y a un lieu dans la maison ou un objet auquel vous tenez particulièrement?
Il y a trois choses qui sont vraiment importantes dans cette maison pour moi. La première, c'est le Bakat Katsala, le fétiche de la maison, donc ce gros bambou avec toutes les feuilles protectrices de la maison qui viennent d'anciennes cérémonies, etc. Le deuxième endroit, c'est à côté de l'endroit où je dors, là où il y a ma boîte avec toutes mes tenues de chaman pour les cérémonies. Et la troisième chose, c'est le tutdukat. Dans le toit, en fait, ce sont trois troncs évidés. Et en fait, c'est le téléphone Mentawai. Quand il y a une nouvelle, on joue dessus, il y a des codes, et on fait savoir dans tout autour ce qui se passe. On joue le tutdukat pour annoncer non seulement les fêtes, mais aussi si on a fait par exemple une bonne pêche ou une bonne chasse, pour que les gens du clan puissent venir partager avec nous. Mais on annonce aussi par exemple la mort de quelqu'un avec. Et pour les fêtes, on a de l'autre côté de la maison les tambours sur lesquels on va pouvoir danser.
Vous êtes un terre indigène sur France Inter. En Indonésie, chez les Mentawai.
Je m'appelle Heri Juliando. Je suis un missionnaire et je travaille avec les Mentawai.
I'm working with Mentawai people. Before, yes, Mentawaian people were animism.
Avant, les gens étaient animistes, mais grâce au travail des missionnaires, ils se sont convertis au catholicisme.
About 50 years ago, the church.
L'Église a apporté l'éducation il y a environ 50 ans.
Education before.
Avant l'arrivée des missionnaires, il n'y avait rien. Juste des gens qui vivaient dans la jungle, qui ne connaissaient rien à part les plantes médicinales et faisaient un peu d'élevage nomade.
Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont catholiques. Peuvent-ils conserver aussi leur culture animiste ?
Oui, je pense. Dans la vie de tous les jours, ils continuent à pratiquer une forme d'animisme. Mais petit à petit, les gens sont plus éduqués et abandonnent ces pratiques. Je pense que s'ils vivent dans la forêt et qu'ils n'ont pas d'éducation, alors ils restent animistes. Parfois, ils ne sont même pas baptisés. Ils ne portent pas de vêtements, sont encore tatoués. Leur mode de vie est encore primitif. Ils vivent dans des villages parce que le gouvernement les y force. C'est obligatoire. Sinon, ils ne sont pas reconnus citoyens indonésiens. Si le gouvernement ne faisait pas ça,
les Mentawai resteraient primitifs.
Remain primitif. Anak ni kasih matawai kat kolobatnya. Anak sudut. Oto anak sudut. Anak si matawai.
Bien sûr que ça fait partie de mon identité d'être habillé comme ça avec mes tatouages, mon kabit, etc.
Kat kolobatnya anak tak sikut siwa boy.
Les personnes, elles doivent voir qui je suis. Elles doivent le comprendre.
Bon, non, il est kat kolobatnya anak.
J'ai mes tatouages. En regardant les tatouages, par exemple, sur la poitrine, il y a une grande barre qui va d'une épaule à une autre en passant par le sternum. Ça représente un arc. Ça veut dire que les gens, quand ils me voient, quelque part, ils savent que je suis un chasseur, que je suis quelqu'un qui vit dans la forêt. Et ça, c'est toute mon identité Mentawai. Imaginez, un militaire. S'il n'est pas avec sa tenue militaire, vous ne savez pas qu'il est un militaire. Moi, on me voit comme ça. On sait que je suis un Mentawai. C'est vrai qu'il y a une dégradation dans notre culture, que beaucoup de jeunes ne portent plus de tatouages et portent les vêtements modernes. Mais si vraiment on veut être un Mentawai complet, un vrai Mentawai, il faut porter les tatouages, ça fait partie de notre identité. Moi par exemple, j'ai même aussi encore les dents taillées en pointe, les cheveux longs.
Mais est-ce que vous pensez que la jeune génération est prête à... comme vous l'avez été, vous, à résister?
L'important, c'est que mes enfants pensent à une chose. Je suis Mentawai. Comme moi, je l'ai pensé au moment où j'ai parlé au gouverneur il y a des années. On doit pouvoir se battre. C'est l'appel des enfants pour venir à l'école. Et aussitôt, il y a des gamins qui apparaissent de partout et qui courent. Ils sont trop contents de venir à l'école. Ouais, c'est bien l'école. On apprend la religion, on apprend l'indonésien.
Le village d'Ougaï est un des villages gouvernementaux où 200 familles vivent gratuitement dans des petites maisons en bois le long d'un chemin de pierre. Un chemin qui conduit à l'église d'un bleu saillant, au dispensaire avec ses panneaux éducatifs sur l'hygiène et à l'école officiellement obligatoire pour tous les enfants. Depuis 3 ans, 3 fois par semaine, ils suivent des cours de culture Mentawai. Lupina Sakokoy est leur institutrice.
Ce matin, je vais enseigner un cours de culture Mentawai sur les Sikerei, sur les chamans. Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il y a à la base de la culture Mentawai? La maison, la grande maison, la Houma. Et qu'est-ce qu'on fait dans la grande maison? On fait les fêtes. Tous ces enfants qui sont là à l'école, ils n'ont jamais vu une maison traditionnelle, je pense. Et ils ont participé certainement, pour la plupart d'entre eux, à aucune fête traditionnelle. Je pense que tout ça, c'est très théorique. C'est le gouvernement local qui nous a demandé de parler de la culture Mentawai.
Il y a effectivement une nécessité de leur enseigner leur culture, puisque eux vivent dans le village et ont peut-être perdu un peu cette culture.
C'est vrai ce que vous dites. Maintenant, ici, ils ne sont pas beaucoup en contact avec la culture Mentawai. Une fois de temps en temps, il y a une fête. Alors, ils regardent ça, mais sans comprendre ce qui se passe, sans comprendre ce que c'est. Nous, on cherche à ce qu'ils comprennent.
Le cours peut s'ouvrir sur l'hymne national indonésien et peut se terminer sur un chant Mentawai.
Oui, ça c'est quelque chose qui a changé. Ça aurait été impensable il y a encore 20 ans, ça. Et là, les enfants qui chantent « Nous sommes des garçons Mentawai, on peut porter des perles et on est fiers d'être Mentawai », ça c'est un grand changement, cette reconnaissance.
Voyage en terre indigène. Pour ne pas disparaître.
Oui, nous sommes très très inquiets de ce qui se passe maintenant. Quand on voit ces énormes tracteurs qui préparent la route, qui passent à travers les plantations de sagoutiers, j'imagine s'ils allaient dans mon coin de forêt où je trouve tous mes médicaments. Ce serait la fin pour nous. En fait, j'ai mis ma maison entre la forêt et le monde moderne, quelque part, pour protéger mon monde à moi. Pourtant, de l'autre côté, il y a le village qui s'est développé. Maintenant, il y a même une mosquée. Il y a aussi des chemins en ciment. Toutes ces personnes-là qui s'approchent de plus en plus, les musulmans, le monde moderne, tout ça, on n'en veut pas ici. On a envie de vivre comme on vivait autrefois.
Je m'appelle Irwan Rachman. Je viens de Swalesi, non loin de la Papouasie. Et je suis venu ici dans le but de construire cette mosquée et de diriger le centre islamique. On a commencé la construction en 2012 avec des capitaux d'Arabie Saoudite. Ce qui est important pour les enfants, c'est d'être éduqués, de ne pas rester dans la forêt. Les enfants peuvent venir ici gratuitement au centre islamique. Nous avons une école. Sinon, les plus âgés, qui sont musulmans, on finance leurs études, le logement et la nourriture. Lorsque quelqu'un veut se convertir, on lui offre des sarangs qui peuvent servir à la prière ou être portés sous forme de vêtements. On distribue de l'argent à ceux qui en ont besoin et qui se sont convertis. Et puis on leur construit des mosquées et aussi des maisons. On en a déjà 10 dans un village et 5 à Ougaï, où on construit en ce moment un nouveau centre islamique. L'islam et la tradition animiste des Mentawai ne sont pas compatibles. Tout ce qui est utilisé dans les cérémonies, comme les objets ou les rituels, même le sacrifice du cochon, n'est pas autorisé dans la religion musulmane.
Allô papa. Allô papa, autorisonale le mobile que urai kawa.
C'est Belon.
Voilà, regarde. L'enregistreur, ils ont envie d'essayer, alors on va essayer de leur passer.
Allô papa. Allô papa, autorisonale le mobile que urai kawa.
Et alors après pour arrêter, on appuie là et alors après, il faut tenir comme ça.
Ya, allô papa.
Kanaide no le. Pollo tu matare con matone.
Bravo!
Saya tidak tahu menulis. Lebih bagus rekam.
Moi je sais pas écrire, mais c'est vrai, ça, un enregistreur comme ça, ça je peux l'utiliser. Donc si tu reviens, ramène-moi. Hein. C'est vraiment bien cet enregistreur. Je suis sûr que je parlerai longtemps avec mon père. Comme ça, s'il s'en va très loin, je peux mettre à côté de mon oreille et je peux l'entendre. Je
ne
sais pas écrire, mais ça c'est comme si c'était une lettre de lui.
Allô papa.
Comme ça, il n'y a aucune des histoires qui sont vraiment les nôtres, qu'on connaît depuis toujours, qui peut disparaître. On les aura toujours.
Les Mentawai pensaient que le classement de leur territoire en réserve de la biosphère par l'UNESCO les sauverait. Tout comme la nomination, il y a 3 ans, d'un gouverneur Mentawai. Mais le répit a été de courte durée. Une route devrait désenclaver leur forêt l'an prochain, de nouveaux villages sont en construction, l'islamisation continue et le tourisme se développe sournoisement.
Moi, à Manlaolao, avec mes enfants, j'ai parlé vrai. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir entendre ce que j'ai dit. On ne sait pas où, mais quelque part. Alors on vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup.
Oh.
Wake up, wake up, little sparrow. Don't make your home out in the snow. Don't make your home out in the snow. Little bird, oh, don't you know, your friends flew south many months ago. Your friends flew south many months ago. Just a baby, you cannot fly. Your wings won't spread against the sky. Your wings won't spread against the sky. Wake up, wake up, little sparrow. Make your home out in the snow. Don't make your home out in the snow.
À Djoubaka pour la programmation musicale que vous pouvez retrouver sur franceinter.fr. Sur notre site, vous pourrez d'ailleurs prolonger le voyage avec la fondation Barbier Muller et Roselyne Segalen qui a rencontré les femmes plongeuses de Corée.
On dit que les richesses de Jeju sont le vent, la mer et les femmes qui plongent pour nourrir leur famille. Quand je suis allée dans le musée Regno, eh bien, j'ai vu que c'était des petites tenues de coton totalement impudiques. Donc effectivement, elles avaient une réputation prolétaire de la mer et en plus légèrement immorale. Enfin, tout ça a vraiment changé complètement dans les années 70, où le gouvernement s'est intéressé à elles. Elles sont maintenant choyées d'ailleurs comme identité iconique. Et on leur a fourni des tenues en néoprène qui leur permettent d'être plus présentables pour les touristes.
Voyage inter-indigène. Une série d'Anne Pastor.
Montage Thomas Loupias. Mixage Mehdi Fatah. Un documentaire réalisé par David Rochier. Merci à Tanné Jubien, Édouard de Pernouat pour les bonus vidéo sur franceinter.fr, Violetta Duarte pour les voix, Christine Digère de France Culture et à l'émission Sur les Docs.
Ce programme a reçu le soutien de la compagnie Jet Airways et de l'agence Secret Planet.
La semaine prochaine, hommes, femmes, mode d'emploi, nous irons chez les Indiens de Taquile au Pérou et chez les Mentawai en Indonésie.
Le voyage continue sur franceinter.fr.